VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue à l'édition du vendredi 25 février 2015. Morgane Guiriek, Eric Manilakiza à la présentation. À la une ce soir, Morgane.
Au Burkina Faso, premier conseil des ministres de l'après-putsch à Ouagadougou. Les Burkinabés attendent toujours la dissolution du RSP.
Ce qu'on attend du gouvernement, c'est tout juste la dissolution du RSP et faire arrêter le général Djengéry Gilbert.
Je veux qu'on supprime le RSP.
En Allemagne, la justice rendra son verdict lundi contre deux chefs de la rébellion hutu rwandaise des FDLR.
Les FDLR, c'est un groupe rwandais qui se trouve à l'est du Congo depuis des années 94.
Ici aux États-Unis, le président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner, démissionne.
Et le pape François est à New York aujourd'hui. Il a apporté son soutien à l'accord sur le nucléaire iranien.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Burkina Faso, le premier conseil des ministres de l'après-putsch s'est tenu aujourd'hui à Ouagadougou. Un seul point préoccupe la population du pays des hommes intègres, la dissolution du RSP. Les précisions avec Zoumana Wanogou.
Jamais un conseil des ministres n'aura eu autant d'intérêt pour les Burkinabés que celui de ce vendredi 25 septembre, ce premier conseil des ministres de l'après-coup d'État manqué. On écoute les attentes des Burkinabés.
Dans ce premier conseil des ministres après putsch, un acte décisif pour la fin du RSP. Ça va beaucoup nous faire plaisir parce qu'on a marché sous les balles. Donc c'est l'appel du peuple.
Ce qu'on attend du gouvernement, c'est tout juste la dissolution du RSP et faire arrêter le général Djengéry Gilbert.
Pour supprimer le conseil des ministres après le coup d'État, je veux qu'on supprime le RSP.
Il faut souligner que le conseil des ministres a été délocalisé du palais présidentiel au premier ministère. Le président Michel Kafando et son premier ministre Yacouba Isaac Zida ont été salués par un standing ovation à leur entrée dans la salle de réunion. Le porte-parole du gouvernement, en se confiant à la presse après le conseil, a indiqué que l'inventaire du matériel du RSP est en cours. Le cantonnement aussi est effectif. Il a ensuite renvoyé la presse au communiqué sur les décisions du conseil qui viendront dans la soirée. On imagine déjà que l'avenir du RSP va être décidé par un décret présidentiel ce soir ou dans les tout prochains jours. Zoumana Wanogou, Ouagadougou, VOA Afrique.
À noter que le ministre délégué à la sécurité était le grand absent de ce conseil. Toujours au Burkina, les auteurs du putsch du 17 septembre ont réclamé des garanties de sécurité pour eux et leurs familles avant de rendre leurs armes. Selon un haut gradé du régiment de sécurité présidentiel, pour le moment, ils n'ont reçu aucune garantie. Parallèlement, un premier inventaire de l'armement du RSP, dirigé par le général putschiste Gilbert Diendéré, devait être rétabli. Ensuite, les armes du RSP devaient réintégrer ce vendredi les casernes. L'accès à la caserne Nabakoum du RSP, située à proximité de la présidence, demeurait interdit aux médias.
Et puis Morgane, les autorités de la transition rétablie doivent notamment se prononcer sur l'avenir du RSP, le régiment de sécurité présidentielle et le calendrier électoral. Des élections présidentielles et législatives étaient initialement prévues le 11 octobre pour mettre fin à cette transition. Et celle-ci est née de la chute en octobre 2014 du président Blaise Compaoré après 27 ans à la tête du pays, renversé lors de manifestations populaires contre une modification de la Constitution pour lui permettre de rester au pouvoir.
Au Burundi, Bujumbura, la capitale, a connu une nuit agitée avec des explosions de grenades et des tirs à l'arme automatique dans différents quartiers du nord de la ville, Eric.
Une personne a été tuée. Kamenge, le fief de l'ancien chef des services de renseignement Adolphe Nshimirimana et ancien bastion des chefs des anciens rebelles du CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir, est entré dans la danse. Tout comme le quartier de Kinama, Chibitoke et Kamenge étaient ce matin bouclés par la police et l'armée, comme nous dit dans ce reportage Christophe Nkurunziza.
Depuis 21h jeudi, des tirs automatiques et l'explosion de grenades étaient entendus dans beaucoup de quartiers au nord de la capitale. Selon porte-parole de la police Pierre Mouriquier, des gens armés ont attaqué une position policière dans la localité de Chivitoke. S'en sont suivis des échanges musclés, même si des témoignages de la population indiquent que certains policiers y auraient trouvé la mort. Le porte-parole de la police affirme qu'une seule personne du côté assaillant a été tuée. Kamenge, jadis bastion de la rébellion Hutu, a été également le théâtre de beaucoup de tirs entre les protagonistes armés. La population dans le quartier voisin de Kinama nous a indiqué que les tirs nourris ont été entendus jusque vers 2h du matin. Depuis plusieurs jours, le calme était revenu dans les quartiers au nord de la capitale, hormis Mutakura la semaine passée, où il était difficile de sortir et d'entrer dans cette localité pendant 3 jours. Cette reprise de la violence coïncide avec l'ultimatum lancé depuis 3 semaines par 4 ministres en charge de la sécurité et de la justice. Ils avaient affirmé que les personnes qui rendront volontairement les armes ne seront pas poursuivies. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Nigeria, prise par l'armée de la ville de Bangui, utilisée par les islamistes comme base pour mener des attaques transfrontalières au Cameroun. Et plus de 200 insurgés du groupe islamiste Boko Haram se sont rendus, a affirmé l'armée nigériane. Cette base arrière permettrait également aux islamistes de s'attaquer à la ville camerounaise d'Amchidé, frontalière du Nigeria. Des accrochages ont eu lieu mardi dans cette localité entre les insurgés et l'armée camerounaise.
Accident malheureux Morgane, au moins 4 personnes sont décédées et 15 étaient entre la vie et la mort après la spectaculaire collision jeudi à Seattle d'un bus transportant des étudiants étrangers dans un véhicule amphibie pour touristes.
Un tribunal kényan a ordonné vendredi aux enseignants de suspendre leur grève et de reprendre le travail après près d'un mois après le début du mouvement social entamé pour des revendications salariales qui a abouti à la fermeture des établissements publics. Cette grève a été déclenchée au lendemain de la rentrée du dernier trimestre. C'est après le refus du gouvernement de mettre en application une décision de justice kényane accordant aux grévistes une hausse de salaire de 50 à 60%.
Et la tutelle des professeurs et syndicats devront, dans les 30 jours, nommer un médiateur ou un comité de conciliation neutre et mutuellement acceptable, a ajouté le magistrat qui a refusé de déclarer la grève illégale.
En Centrafrique, 335 enfants soldats affiliés à divers groupes armés qui ont été remis à l'UNICEF en mai dernier vont retrouver les bancs de l'école à Bambari.
Et toujours dans cette région de l'Afrique centrale, à l'est de la République démocratique du Congo, au moins 3 soldats ont été tués dans une attaque contre une position militaire à Rumangabo, à 50 km au nord de Goma.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités saoudiennes n'ont pas encore fourni un décompte par nationalité des 717 victimes de la bousculade hier pendant le pèlerinage musulman à Mina, près de la Mecque. Le ministre saoudien de la Santé s'est rendu sur le lieu du drame et l'identification des victimes continue. Notre confrère Moussa Koïta Makalou, envoyé de la radio ivoirienne Al Bayan, sur place à Mina.
Chaque pèlerin a sous la main droite ou gauche un bracelet électronique où se trouve sa photo et bien entendu le numéro de téléphone qui encadre les pays par zone. À travers ces identifiants, on sait automatiquement ce pèlerin vient de quel pays, de quelle zone. Je suis actuellement dans les rues de Milan. Nous avons fini de lapider les 3 stèles du Satan. Les pèlerins sont sortis massivement pour dire que ce qui s'est passé hier était une histoire à oublier, à prendre avec beaucoup de philosophie, car ce sont des croyants. Et là, nous avons fini et nous retournons dans notre zone, parce qu'il y a la zone africaine, il y a la zone maghrébine, il y a la zone européenne, il y a la zone américaine, il y a la zone asiatique, il y a la zone arabe. Le Hajj, pour certains, se termine demain. À Milan, c'est 3 jours, selon les écritures prophétiques. Et on a la possibilité de faire 2 jours. Et le 3e jour, c'est pour certainement le samedi. Tous les 2 millions presque de pèlerins vont quitter Milan pour rejoindre leur base à la Mecque.
Notre confrère Moussa Koïta Makalou, envoyé de la radio ivoirienne Al Bayan à Mina, en Arabie Saoudite.
Ici aux États-Unis, le président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner, démissionnera de son poste et de son siège au Congrès à la fin du mois d'octobre. C'est ce qu'ont annoncé des parlementaires et de proches collaborateurs de M. Burna. Les précisions d'Idrissa Seydoudi.
Une trentaine d'éléments purs et durs du groupe parlementaire républicain menaçaient de déposer une motion pour chasser M. Beyner du perchoir qu'il occupe depuis 5 ans. Ce qui signifie que, pour se cramponner à son poste, il aurait eu besoin des votes des démocrates. Le dernier litige entre M. Beyner et les ultra-conservateurs portait sur la recherche d'un compromis avant la fin de l'exercice fiscal le 30 septembre. Ces derniers voulaient couper les fonds à une organisation de planning familial, Planned Parenthood, qui a défrayé récemment la chronique suite à certaines révélations orchestrées par des groupes anti-avortement. Pour rappel, c'est ce genre d'affrontement idéologique qui avait conduit au shutdown d'octobre 2013, provoqué par les ultra-conservateurs du Tea Party, selon lesquels M. Beyner est mou face au président Barack Obama et à ses alliés démocrates.
Le pape poursuit sa tournée aux États-Unis aujourd'hui. François est à New York où il a prononcé un discours au siège des États-Unis. Le président chinois est lui aussi en visite aux États-Unis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Ecobank inspire confiance à la banque allemande. La bonne santé d'Ecobank lui vaut la confiance de la Deutsche Bank qui lui accorde un prêt de 285 millions de dollars sans aucune garantie. Le groupe bancaire panafricain basé à Lomé utilisera cette ligne de crédit pour refinancer des prêts existants. Présent dans 36 pays africains, Ecobank emploie 20 000 personnes. Un nouvel hôtel sur le plateau à Abidjan. Le quartier du plateau à Abidjan se prépare à accueillir un hôtel de luxe suisse. Dans 6 mois, le groupe Mövenpick Hotels and Resorts devrait commencer les travaux pour un hôtel 5 étoiles comptant 220 chambres. Il sera réalisé en partenariat avec Bouygues Construction et l'homme d'affaires ivoirien Abdoul Kassam pour un investissement de 55 millions d'euros. Est-ce bientôt la fin des délestages dans la région du littoral au Cameroun ? La société norvégienne Grenor et l'État camerounais ont signé un accord pour la construction d'une centrale thermique dans la région du littoral camerounais, d'une capacité de 300 MW pour un investissement de 109 milliards de francs CFA. Le projet devrait permettre de créer plus de 1000 emplois. 7e African Business Awards, une femme à l'honneur. Le trophée de la femme d'affaires la plus remarquable a été attribué cette année à la Sud-Africaine Daphne Mashilinkosi, présidente de Kalagadi Manganèse, société qui a créé plus de 30 000 emplois dans la province du Cap. Selon le Point Afrique, elle sera la plus importante personnalité minière des 30 dernières années.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
Voilà, vous avez reconnu l'indicatif, c'est les sports. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
D'abord, une procédure pénale ouverte contre le président de la FIFA, Sepp Blatter.
Oui, pour soupçon de gestion déloyale et abus de confiance, avec notamment un versement suspect de 2 millions de francs suisses à Michel Platini. Michel Platini, le patron du foot européen, c'est ce qu'a annoncé le ministère suisse, public suisse. Donc, le ministère suisse de la justice soupçonne d'une part Blatter d'avoir signé un contrat défavorable à la FIFA avec l'Union caribéenne de football, dont Jacques Werner était le président.
Et justement, la justice au Trinidad a fixé la date de l'audience sur l'extradition de ce dernier aux États-Unis.
Oui, ce sera le 2 décembre. Cette audience de Jacques Werner, ancien vice-président de la FIFA, pièce maîtresse du scandale de corruption qui éclabousse en ce moment la FIFA.
Issa Hayatou, patron de la FIFA.
Oui, le Camerounais Issa Hayatou, le boss du foot africain depuis 1988, pourrait succéder donc par intérim à Joseph Blatter si ce dernier venait à partir. L'ancienneté dans la gouvernance du foot mondial du président de la CAF lui confère donc le titre de vice-président senior de la FIFA et le droit de s'asseoir dans le fauteuil de Blatter en cas de vacances ou d'empêchement.
En football, toujours Bagassi, l'entraîneur de Chelsea, José Mourinho, a des mots durs pour l'entraîneur d'Arsenal.
Oui, c'est pas la première fois. José Mourinho, très remonté par un début de semaine agité, s'est lancé vendredi en conférence de presse dans une nouvelle critique contre Arsène Wenger en prenant soin de ne pas citer son nom, le nom de son collègue. Donc, dans ce pays, dit-il, il n'y a qu'un seul entraîneur qui n'est pas sous pression.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eric Manirakiza et Morgane Guirier, quand votre compagnie place au dossier du jour, Morgane.
En Guinée, les responsables de l'opposition arrêtés la semaine dernière ne sont toujours pas relâchés. Amnesty International, qui demande leur libération, dénonce dans un communiqué une violation intolérable du droit à la liberté d'expression. D'après cette ONG de défense des droits de l'homme, les activistes et responsables politiques détenus à la prison centrale de Boké n'ont pas pris part aux violents affrontements entre manifestants rivaux dans la ville de Koundara le 19 septembre dernier. L'élection présidentielle en Guinée est prévue le 11 octobre prochain. Roger Kalala a recueilli les explications de François Patuel, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International.
Il y a eu deux groupes d'arrestations. Le premier, c'est à Koundara, une petite ville du nord de la Guinée, où il y a eu des affrontements entre deux groupes de militants politiques. D'un côté, les partisans de Sédou Damien Diallo, et de l'autre côté, les militants de Alpha Condé. Mais ce qui inquiète Amnesty, c'est que des personnes de l'opposition ont été arrêtées alors qu'elles n'ont pas participé à ces manifestations violentes. Et elles ont même appelé les autres militants au calme. Donc, il faut évidemment que les responsables des actes de violence soient mis devant les tribunaux et soient jugés. Mais il ne faut pas profiter de cette occasion pour faire une rafle des militants de l'opposition. Il faut que la justice soit neutre et indépendante et que les responsables des actes soient jugés, mais que ceux qui n'ont pas usé de la violence soient immédiatement relâchés.
Et pourquoi les opposants qui n'ont pas participé aux violences sont arrêtés? Est-ce que ce sont des détenus politiques?
S'ils n'ont pas utilisé la force et qu'ils sont détenus avec d'autres, oui, ce sont des détenus. Oui, on peut s'interroger sur le motif de leur arrestation et sur le fait que ce soit que les opposants politiques aient été arrêtés à Koundara. Donc c'est bien là où il faut que les autorités guinéennes fassent attention, parce que si elles détiennent des personnes, des opposants politiques qui n'ont pas usé de la violence, ces personnes, le risque c'est qu'ils soient arrêtés en effet seulement sur la base de leur opinion politique.
François Patuel, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, joint à Dakar.
En Allemagne, la justice rendra son verdict lundi contre deux chefs de la rébellion hutu-rwandaise des FDLR. Ignace Mugwanashyaka et Straton Moussoni sont jugés depuis le 4 mai 2011 à Stuttgart et accusés d'avoir orchestré des crimes dans l'est de la RDC. Qui sont les deux accusés? Idriss Fall a joint Annek van Wundberg de l'association des droits de l'homme Human Rights Watch.
Alors, Monsieur Ignace Mugwanashyaka, c'était le président d'un groupe rebelle à l'est du Congo qui s'appelle les FDLR. C'est un groupe rwandais qui se trouve à l'est du Congo depuis des années 94, qui a commis beaucoup de violations de droits de l'homme contre la population civile du Congo. Et bien sûr, quelques de leurs leaders étaient impliqués aussi dans le génocide au Rwanda.
Son adjoint Straton Moussoni, alors?
Et Straton Moussoni, c'est le vice-président du groupe rebelle FDLR. Ces deux messieurs qui ont habité en Allemagne pendant plusieurs années, et spécifiquement Ignace Mugwanashyaka depuis des années 89. C'est des gens qui ont dirigé un groupe rebelle à l'est du Congo de leur maison, de leur bureau d'Allemagne.
Donc depuis 89, comment est-ce qu'ils pouvaient être impliqués dans ces attaques des FDLR?
Bon, les deux messieurs sont devant un cours en Allemagne pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité que le groupe FDLR a commis à l'est du Congo. Human Rights Watch, nous, on a beaucoup documenté ces crimes. Spécifiquement, les deux messieurs sont chargés pour des crimes entre 2008 et 2009. C'était une époque assez sanglante à l'est du Congo, quand les FDLR ont vraiment ciblé des civils et en fait, dans leurs mots, ils ont puni des civils pour le fait que leur gouvernement a accordé le gouvernement de Rwanda de les chasser de l'est du Congo. Donc, ils ont tué au moins 700 personnes d'une façon assez atroce avec des machettes, les coups de hache. Ils ont ligoté leurs victimes et ils ont les égorgés. Et selon les preuves que le procureur a présentées devant les juges, ces deux messieurs, spécifiquement Ignace Morwana Chaka, étaient en contact tout le temps avec les leaders militaires de cette groupe à l'est du Congo et spécifiquement un leader militaire qui s'appelle Général Muda Chumura, le principal acteur dans tous ces massacres. C'est la première fois qu'on a un dossier comme celui-ci. Il y a plusieurs de charges contre les deux messieurs. Si les juges trouvent Morwana Chaka et M. Musoni coupables, c'est ça qu'on attend le lundi.
Anneke van Woudenberg de l'association des droits de l'homme Human Rights Watch.
La campagne électorale s'intensifie au Canada pour les législatives du 19 octobre. Le parti conservateur du premier ministre Stephen Harper, au pouvoir, tente de défendre son bilan face au nouveau parti démocratique, mais aussi le parti libéral du Canada, de même que le bloc québécois qui lutte pour la souveraineté du Québec. La question du voile musulman intégral, le niqab, s'est invitée dans le débat. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint le journaliste béninois canadien Godefroy Chabibi à Gatineau, Ottawa.
Tout a commencé dans la foulée d'une récente décision de la Cour fédérale d'appel qui a invalidé un règlement qui interdit le port du niqab durant la cérémonie de prestation de serment pour obtenir la citoyenneté canadienne. C'est quoi? Le Parti conservateur dit que c'est inadmissible, que de toutes les façons, que si on le reporte au pouvoir le 19 octobre, qu'il va essayer dans les 100 premiers jours de faire passer une loi en quelque sorte pour interdire définitivement le port du voile. Et donc, l'incidence que ça a eu, c'est quoi? C'est que le Parti conservateur, qui jouait le troisième rôle dans les intentions de vote depuis quelques jours, a commencé un peu à connaître une remontée dans les sondages et tout. Et il y a des sondages, notamment ces derniers jours, qui donnent la première position au Parti conservateur du Canada avec 35% des intentions de vote, soit une remontée de 6 points. Et derrière, le Parti libéral, et qui avait 6 points, et en troisième position, le NPD, qui était en train de caracoler en tête depuis quelques jours, s'est retrouvé en troisième position.
Avec 82% des Canadiens opposés au port du niqab, selon un récent sondage, peut-on dire que les conservateurs tiennent ici leur ticket pour la victoire?
On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non non plus, parce que justement, non seulement 82% des Canadiens, mais au Québec, où la question du voile est extrêmement sensible, on voit que 93% des Québécois disent aussi non au port du niqab lors d'une cérémonie de prestation de serment.
Qu'en est-il de la diaspora africaine au Canada? Est-ce qu'elle s'intéresse à ce débat sur le niqab?
Justement, si vous m'aviez posé la question de savoir comment la diaspora africaine s'intéresse, et disons, aux différentes questions qui sont soulevées lors de cette campagne, je vous dirais que c'est assez mitigé. Mais précisément sur la question du niqab, comme vous le soulignez si bien, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt parce que il y a quelques mois ici, notamment au Québec, on a vu qu'il y avait eu une loi qu'on tentait de faire passer à l'Assemblée nationale du Québec, justement sur la question des valeurs québécoises et tout. On a vu à quel point ça fait beaucoup de débat. Mais lorsque, justement, on ramène encore la question du niqab dans un enjeu fédéral et tout, ça devient encore plus intéressant. Et donc, on voit que la diaspora africaine s'intéresse réellement à ce débat, veut savoir en réalité où est-ce que ça va nous mener, veut savoir réellement comment est-ce que cela va se traduire dans les votes le 19 octobre prochain. Ça se discute partout.
Le journaliste bénino-canadien Godefroy Chabi, joint à Gatineau, Ottawa.
l'occasion de sa visite officielle aux États-Unis, Xi Jinping, le président de la Chine, a promis que les autorités chinoises travailleraient en étroite collaboration avec les États-Unis pour lutter contre la cybercriminalité. La cybersécurité est l'un des dossiers phares de cette visite. Pour nous expliquer la place de la Chine dans la cybercriminalité et l'importance de ce dossier, Dili Dico a joint Solange Gernauti, professeur à l'Université de Lausanne, experte internationale en cybersécurité.
La Chine, dans ce paysage, effectivement, on lui attribue un grand nombre de cyberattaques visant des systèmes gouvernementaux, y compris aux États-Unis, mais aussi ailleurs, et là, et des systèmes aussi commerciaux. Il y a un grand enjeu pour les Chinois de pouvoir accéder à des informations relatives à la propriété intellectuelle. C'est aussi une façon de développer des compétences après ou d'acquérir des savoir-faire à moindre coût, c'est de les voler. Il est vrai que les données stockées dans les systèmes américains ou des entreprises américaines peuvent être la cible d'agents au solde du gouvernement, ce qui n'est pas forcément démontré, mais aussi de groupes criminels. On a vu Target aux États-Unis qui a eu des vols de données personnelles de ses clients.
Le président chinois a promis de travailler avec les autorités américaines pour lutter contre la cybercriminalité.
Déjà, la visite du président chinois aux États-Unis, c'est quand même une grande première et c'est un pas en avant vers plus de coopération, d'ouverture et de dialogue. Et pour lutter contre ce crime informatique, cette cybercriminalité qui est un crime transnational, c'est-à-dire la victime est dans un pays, les auteurs sont dans l'autre, il faut pouvoir mettre en œuvre des processus d'entraide judiciaire internationale et de collaboration internationale. Et je pense que c'est vraiment une grande première qui va être un grand pas vers plus de coopération et plus d'échanges d'informations. Et on peut que s'en réjouir. Il faut pouvoir travailler ensemble.
Lutter contre la cybercriminalité, qu'est-ce que cela signifie exactement par rapport aux mesures à prendre ?
Alors, c'est des mesures de prévention, c'est des mesures techniques, de sécurité, de protection physique des systèmes, de protection logique des applications, des logiciels, des données, mais c'est aussi des mesures organisationnelles, de mettre en place des équipes, des systèmes de justice et des polices qui permettent de lutter contre, de se mobiliser, comme le fait d'ailleurs très bien Interpol ou Europol dans ce contexte-là. C'est aussi pour les pays de se doter de lois qui incriminent le crime informatique, de façon à pouvoir le poursuivre, parce qu'un crime n'existe que lorsqu'il a été écrit dans la loi. Et dans beaucoup de pays, on a des niveaux de perception ou d'avancement sur ces questions qui peuvent être de niveaux différents. Et de ce fait, il existe des paradis digitaux, c'est-à-dire des pays où des serveurs peuvent être hébergés avec des codes malveillants, ou à partir desquels on peut lancer des attaques en relative toute impunité, puisqu'il n'y a rien qui incrimine cet acte-là dans ces pays-là.
Solange Gernauti, professeure à l'Université de Lausanne, experte internationale en cybersécurité, jointe à Lausanne par Dili Dico.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi, nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde ce soir, Georges Léonard Sagnot. À la console, Tian Wan. Présentation, Morgan Diriek et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui, Morgan. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.